VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. L'Australienne Jocelyn Elliott, 84 ans, relâchée samedi grâce à l'aide du Niger après avoir été kidnappée avec son mari médecin à la mi-janvier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda, est arrivée aujourd'hui à Ouagadougou. L'otage australienne déclare vouloir retrouver son mari et rester au Burkina Faso. Plus de détails avec Anna Botson.
Madame Elliott et son mari, Arthur Kenneth Elliott, avaient été enlevés à Djibo, dans le nord du Burkina, à la frontière avec le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 16 janvier, lors d'une action apparemment coordonnée. Cette nuit-là, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, des attaques djihadistes contre le café-restaurant Cappuccino, les hôtels Splendid et Yibi et un bar avaient fait 30 morts et 71 blessés. Dans la journée du 15 janvier, une attaque contre des gendarmes avait également fait 2 morts à Tinakoff, dans le nord. L'enlèvement du couple australien avait été revendiqué par Ansar Dine, groupe djihadiste de l'ex-chef rebelle touareg malien Iyad Aghali, au nom de l'émirat du Sahara. Selon des spécialistes des milieux islamistes, cette appellation désigne une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les époux Elliott vivaient au Burkina depuis 1972 et étaient engagés dans des opérations humanitaires en faveur des populations de la province du Soum et celles des pays voisins du Mali et du Niger. Le docteur Arthur Kenneth Elliott reste encore aux mains de ses ravisseurs.
Au Mali, la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad sont tombés d'accord pour cohabiter pacifiquement à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. Des centaines de membres de la plateforme, qui est une coalition de groupes armés soutenant le gouvernement malien, étaient entrés sans violence à Kidal le 2 février. Ces deux groupes se sont battus plusieurs fois dans le passé, malgré l'accord de paix conclu après des mois de négociations à Alger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, au Tchad, une vingtaine de manifestants qui avaient défilé samedi à N'Djamena pour protester contre la répression de la jeunesse avant d'être arrêtés, ont été finalement libérés aujourd'hui, selon le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, Kamoujet. Le procureur de la République et le directeur de la police judiciaire sont venus à notre lieu de détention pour nous annoncer que nous sommes libres, a déclaré à l'AFP Hervé Pando, membre de l'une des associations des droits de l'homme, arrêté avec 22 manifestants. Pour le moment, le ministère public n'a pas souhaité engager des poursuites contre les personnes arrêtées, a expliqué pour sa part le procureur de la République. Nous ne pouvions donc que les libérer, a-t-il ajouté. La marche avait organisé pour protester contre la répression de toute forme de violence dont la jeunesse est victime depuis 25 ans avait eu lieu après la dispersion violente par la police anti-émeute d'un sit-in organisé jeudi dernier dans la capitale tchadienne par une centaine de jeunes diplômés devant le ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kezabo, avait dénoncé l'arrestation et réclamer la libération immédiate des personnes arrêtées. On passe maintenant au procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré au Sénégal. Les audiences entrent aujourd'hui dans leur deuxième phase avec les plaidoiries des parties civiles et des avocats de la défense entrecoupées du réquisitoire du parquet général jusqu'au 12 février. Hissène Habré est jugé depuis juillet pour crime contre l'humanité devant un tribunal spécial africain siégeant à Dakar. Et puis en RCA, troisième jour de la campagne électorale ce lundi, dans le cadre du second tour de la présidentielle, alors que les deux candidats vont à la rencontre des électeurs à Bangui et à l'intérieur du pays, les alliances politiques se multiplient en leur faveur. La bataille s'annonce donc serrée le 14 février prochain, jour du vote. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À la différence de la campagne électorale pour les législatives, plutôt timide, la campagne pour le second tour de la présidentielle est bien mouvementée. Lancée le 6 février, les deux candidats n'ont pas attendu pour solliciter les suffrages de quelques 2 millions d'électeurs centrafricains. Alors que le candidat Faustin Archange Touadéra se lance à la conquête des électeurs de Bouar, Bozoum et Bossangoa, le même samedi, jour d'ouverture de la campagne électorale, le collectif des candidats à la présidentielle tient un grand meeting en sa faveur au point zéro au centre de Bangui. Jean-Baptiste Koba, candidat du mouvement social de l'évolution de l'Afrique noire Messane à la présidentielle du 30 décembre 2015.
Mais je vais vous dire une chose, Faustin Touadéra va nous rendre riches. Il va nous rendre riches d'abord nous-mêmes. Faustin Touadéra va nous rendre riches de sécurité.
De son côté, le candidat nicéen Georges Dologuélé a reçu dimanche un soutien de taille, celui du Rassemblement démocratique centrafricain de Désiré Bilal Zanga Kolimba, sorti troisième à l'issue du scrutin présidentiel du 30 décembre. Désiré Bilal Zanga Kolimba.
Lors du premier tour de ces élections, le RDC et moi avions défendu, conformément aux idéaux de notre parti, l'homme de Centrafrique. Aujourd'hui, le peuple a décidé. Nous en avons pris acte. Voilà pourquoi le Rassemblement démocratique centrafricain a décidé de dire oui. Le RDC dit oui au Rassemblement et à Anicet Georges Dologuélé.
Un autre soutien non négligeable à Anicet Georges Dologuélé, l'appui de 5 groupements syndicaux des travailleurs. Dans les Jeux d'Alliance, le mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé, 4e suite au premier tour de l'élection présidentielle, et le cadre de concertation élargi des plateformes, partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes ont exprimé leur soutien à Faustin Archange Touadéra. La bataille s'annonce donc très serrée pour le second tour du 14 février. L'autorité nationale des élections appelle les deux partis à l'apaisement. Sa présidente, Marie-Madeleine Coué-Ornaillère, invite les différents candidats au respect du code de bonne conduite.
Les scrutins du 14 février 2016 constituent l'une des solutions de sortie de crise de la République centrafricaine, notre beau pays. À ce titre, nous devons tout mettre en œuvre pour consolider la paix et les valeurs de vivre ensemble. L'autorité nationale des élections en appelle donc à votre esprit de civisme, de discipline et de non-violence pour que la campagne se déroule dans un climat apaisé.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et toujours concernant la Centrafrique, Amnesty International, dans un nouveau rapport rendu public ce lundi, dit craindre un risque de continuation des violences meurtrières et de l'instabilité. L'organisation demande de tirer les conséquences des lacunes de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, et de songer à les combler en toute urgence. En République du Congo, deux opposants de la plateforme IDC Frocad se sont déclarés ce week-end candidats au prochain scrutin présidentiel. Il s'agit de Guy Brice Parfait-Koulela, ancien ministre de la fonction publique, et de Clément Mierassa, candidat malheureux à la présidentielle de 2009. Les deux hommes répondent ainsi à la stratégie de multiples candidatures pour espérer battre le président Denis Sassou Nguesso, qui fait encore mystère autour de sa candidature à la présidence. On passe maintenant à l'Afrique du Nord. Human Rights Watch a accusé aujourd'hui le ministre égyptien de la Justice d'appeler au massacre d'opposants islamistes après qu'il ait souhaité à la télévision la mort de dizaines de milliers de frères musulmans. Le 28 janvier, le ministre de la Justice, Ahmed El-Zin, a déclaré à une chaîne de télévision qu'il ne serait pas satisfait tant que 10 000 frères musulmans ne seraient pas tués pour chaque membre des forces de sécurité ayant péri dans un attentat. L'Organisation des droits humains basée à New York a demandé au président Abdel Fattah al-Sissi de condamner les propos de son ministre. Et puis le Parlement algérien a adopté aujourd'hui un projet de révision de la Constitution qui prévoit le rétablissement de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Le président Abdelaziz Bouteflika, 78 ans, pourra terminer son 4e quinquennat et briguer un 5e s'il le souhaite. Et le tamazir, parlé par 10 millions de personnes, une langue berbère, est maintenant langue officielle, mais l'arabe demeure la langue de l'État. Et puis en Haïti, le président Michel Martelly a achevé dimanche son mandat présidentiel sans remettre le pouvoir à un successeur en raison du report des élections. Le processus électoral a été stoppé à la suite des contestations de l'opposition qui dénonçait un coup d'État électoral fomenté par le pouvoir exécutif. Le second tour de la présidentielle et des législatives partielles initialement prévu le 27 décembre a été reporté dans un premier tour au 24 janvier, puis a été reporté sine die, empêchant ainsi le président Martelly de passer le pouvoir à son successeur le 7 février, comme le souhaite la Constitution. Et pour terminer, la marine sud-coréenne a tiré des coups de semonce ce lundi contre patriotes nord-coréens à la frontière maritime disputée entre les deux pays. Les responsables sud-coréens et américains de la défense ont décidé d'ouvrir des pourparlers officiels sur le déploiement dans la péninsule coréenne de systèmes de défense antimissiles américains destinés à faire face à la menace nord-coréenne.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.